Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM Plus, fréquence 91 à Montpellier, Alliance Plus, fréquence 103.1 à Nîmes, qu'on peut écouter également sur internet www.fmplus.org, en compagnie de Stéphane Marin à la technique. Je suis très honorée d'avoir aujourd'hui comme invitée Annie Estève. Bonjour Annie.
Bonjour Marie-Agnès.
Passionnée de poésie, elle est directeur artistique de la maison de la programmation à la Maison de la Poésie de Montpellier. Languedoc, elle consacre une grande partie de son temps à cette activité depuis plusieurs années et fait vivre de par son travail et son énergie ce lieu en lui communiquant toute son émotion. Annie, as-tu toujours été passionnée de poésie et d'écriture ?
Oui, tout d'abord Marie-Agnès, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission. Je te dis bravo pour le travail que tu accomplis pour la poésie qui nous est chère. Alors, bon, je pense que c'est un petit peu comme toi, hein, bien sûr. La poésie n'est pas une passion récente ou tardive. Hein, elle irrigue toute notre vie. Personnellement, je l'ai fréquentée même, je l'ai dit une fois, ce micro, dans ma propre préhistoire. Hein, une sensation d'être au monde, de le percevoir qui précède le fait de savoir lire ou écrire, comme tous les enfants, un état de réceptivité au monde, de grande émotivité, qui crée ensuite les conditions favorables à une éclosion. C'est un état émotif, et ça conduit à un amour, tout d'abord, hein, de la poésie, de célébration et d'émerveillement. Alors, je suis, comme je te le disais, effectivement, quelqu'un de très émotif, et précisément, en ce moment, je suis vivement émue par la disparition d'un grand poète et ami, Yves Rouquette. Voilà, donc il vient de nous quitter. Et c'était un ami, il avait lu plusieurs fois pour la Maison de la Poésie, et notamment lors d'une très très belle soirée avec Michel Bismuth, le musicien Michel Bismuth, lui aussi disparu. Nous avions donné Le Chant des Millénaires, un très beau texte, Yves Rouquette, à la médiathèque centrale. Alors ma manière de lui rendre hommage sera de lire un texte qu'il m'avait confié en 2009, pour le donner aux enfants qui fréquentent la médiathèque Françoise Giroud à Castries. Il l'a lu ensuite devant eux. Je vais le lire en français, parce que je suis incapable de lire en occitan. C'est un texte sur le rôle du poète, et ça s'appelle « Trop tard venu, peut-être, Yves Rouquette ». Dans vos langues, pour le moment encore vives, comme dans nos parlers, depuis longtemps à l'agonie, c'est toujours trop tard que nous arrivons, les poètes. Quand tout déjà a été dit sur tout, et avec tant d'intelligence, de précision et de finesse, que l'on devrait se taire, admiratif, reconnaissant et humble. Et nous prenons la parole, pourtant, nous réclamons silence et attention extrême, comme si, du plus obscur de nous, était montée quelque vérité, encore jamais dite, capable de renvoyer au néant le vieil ordre des causes et des effets, du permis et de l'interdit, le malheur de vivre et la joie si amère de se savoir mortel. C'est vrai, nous avons cette audace, et cela arrive parfois. Des murailles et des brindilles, des remparts faits de ces débris que le ruisseau abandonne à ses rives, nos poèmes ne sont rien d'autre. Mais les oiseaux s'y réfugient, et ils y nichent, et ils y chantent, et à toi, à moi, ils dialoguent avec le monde entier. L'entrelac de nos solitudes, de nos illusions, de nos peines, de nos insurrections et de nos prières, comme de nos amours promises aux cendres, aux charniers, voilà tout ce que nous avons à jeter à la gueule puante de la commune universelle et nécessaire mort. Notre honneur ne sera que cela, avoir été, être et vouloir rester de conditions banales. Dans notre four, jamais ne cuit que du pain de ménage. C'est au pied de la lettre que nos mots sont à prendre. Lexique, aussi bien que syntaxe, nous viennent du foirail, de la vie au champ, du café, de la table et du lit, des plus ordinaires des jours. Mais c'est grâce quand ils irradient. Nous ne sommes maîtres de rien, ni du sens des paroles, ni de leur agencement. La syntaxe commande qui nous vient du plus loin que l'écriture et que l'histoire. elle est née hors la loi, et loi elle s'est faite, comme ce qui fait monter la sève, courir le sang et les étoiles se mouvoir. À quel point l'eau est nue, l'eau ne le cache pas. À quel point elles sont moins que les morts, les civilisations le crient. Le plus prouvé jamais ne dure, c'est dans le noir que gîte la lumière. De si peu de réalité que soient nos âmes, elles auront toujours plus d'épaisseur que les corps dont nous sommes vêtus et qui dans l'oubli nous enferment. De là nous vient peut-être, plus fort que tout, cet amour qui nous fait marcher à deux tout le matin et tard le soir, en tournant le dos au soleil, tandis que nos ombres jumelles n'en finissent pas de grandir, n'en finissent pas de gagner en avance sur nous la part obscure de la terre. Et qu'à nos nuques ce feu brûle, qui est, dit-on, celui de Dieu, quand dans un buisson il s'enferme. Père sans fils et homme sans patrie, au coude à coude avec les morts qui nous entendent et qui nous jugent, nous labourons, nous semons, nous herçons les champs que nul ne possède, du possible et de l'impensable. Et nos hymnes, les plus désespérés, sont de merci et de louange.
Donc maintenant, avec Annie et Steve, nous allons parler de la poésie qui t'est chère. Je suppose que tes goûts en poésie sont très éclectiques. Cependant, il y a certainement des auteurs qui parlent encore plus à ton cœur. Pourrais-tu nous en présenter quelques-uns, Annie ?
Oui, je pense que l'émotion que j'ai ressentie à la lecture du texte de Yves Roquette était perceptible. C'est-à-dire que bon, je suis très, très touchée par la poésie lyrique, en fait. C'est vrai, mais je vais reprendre quand même la formule de Rimbaud. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, nous les prendrons, nous les comprendrons. Et je crois que effectivement, je peux pas citer une famille d'auteurs qui me serait chère. Et quand j'essaie de les énumérer, c'est la diversité qui est évidente, bien sûr. Je ne sais pas, la poésie de Shakespeare, celle de Racine, de Rilke, Nerval, Apollinaire, Paul Celan, Edgar Poe, je cite des auteurs qui m'ont été essentiels, Emily Dickinson, Whitman, Beckett, j'aime beaucoup Beckett, Maeterlinck, etc., mais René Char, bien sûr.
Oui.
Donc, voilà, et c'est vrai que, finalement, quand je regarde aussi ce que j'aime, les auteurs que j'aime aujourd'hui, par exemple... Il y a un auteur qui en ce moment, dont les œuvres occupent ma table de chevet, c'est Franck Venaille. Et Franck Venaille, qui a été un auteur extrêmement novateur, bon, celui qui avait fondé la revue Chorus, hein, fait partie d'une toute une génération d'auteurs extrêmement avant-gardistes. Eh bien, c'est un grand lyrique, en fait, aussi, surtout dans ses derniers écrits. Voilà, alors je vais peut-être délaisser tous les autres grands auteurs que je viens de citer. Rappelez aussi qu'on m'a entendu en lire quelques-uns dans l'émission de Christian Malaplate,
Traces de lumière.
Traces de lumière. Je vais le favoriser un petit peu aujourd'hui, alors pour une raison très simple aussi, c'est qu'il m'a téléphoné l'autre jour, j'étais très très heureuse de ça. Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire combien j'avais aimé son dernier livre, donc, qui a été publié au Mercure de France, qui s'appelle La bataille des éperons d'or. Et il m'a appelé, il m'a téléphoné et il m'a parlé un petit moment. Il m'a dit qu'il avait été très très touché par le message que je lui avais envoyé. Donc on va peut-être le faire venir. Il est malade, hein, Franck Venaille, mais il va quand même braver sa maladie comme il l'a fait l'année dernière à Sète. Et il va venir certainement à Montpellier pour présenter La bataille des éperons d'or. Il est invité cette semaine d'ailleurs à la Maison de la Poésie de Paris.
Très bien, oui.
Alors, je disais donc, Franck Venaille a été connu dès son premier livre qui s'appelait Papier d'identité en 1966. Sa vie a été marquée par 2 ans de guerre d'Algérie et il parle dans tous ses livres de la douleur à la souffrance morale et physique qui ont été la conséquence de cette guerre. Simplement rappeler que dans les années 80, quand il se découvre malade, il décide de voyager le long de l'Escaut et de parcourir les 450 kilomètres qui mènent de la source à la mer du Nord. Et il a rapporté de ce voyage le magnifique poème épique qui s'appelle « La descente de l'Escaut », que j'avais dans un premier temps l'intention de lire, et puis finalement je vais lire un extrait de « La bataille des éperons d'or ». Alors, Franck Venaille, a écrit un magnifique ouvrage où se superposent les époques, les guerres fantasmées ou vécues, puisque la bataille des éperons d'or, elle s'est déroulée à Courtrai en 1362. Elle a opposé les Flamands, qu'ils soient gens du peuple ou chevaliers, aux troupes du roi Philippe IV le Bel. Elle s'est soldée d'ailleurs par la déroute des Français. Et Franck Venaille brasse cette guerre-là avec une guerre qu'il a connue, la guerre d'Algérie. Il brasse les époques, les paysages, les Flandres, les déserts, et il nous fait ressentir ses souffrances physiques et morales, ce qu'il appelle le « ça », mais aussi, bien sûr, la vigueur d'une force de vie. Alors ce livre est magnifique parce qu'il contient aussi une grande variété de formes, de la prose, des poèmes, des vers courts, il porte en lui une grande originalité. On a l'impression que Franck Venaille retraverse toute sa vie. Je lui ai dit qu'il était vraiment au sommet de son art avec ce livre. Alors, je vais lire 2 textes très différents. Un poème et puis un texte en prose. Donc, Franck Venaille, La bataille des éperons d'or. L'eau, des tourbières, l'eau où mon règne perdure avant de glisser ce qui me reste de voix dans la fanfare et d'en être le speaker, jamais abattu. L'eau m'attire, tire cette eau. J'ai bien connu le bourgmestre, il faisait apparaître la ligne d'horizon. Souris, mulots, hérissons, taupes devinrent mes amis ces années-là, où je fus désigné fournisseur en eau potable pour récital, il faut être celui-ci qui bouleverse la salle entière. Ainsi, la poésie un jour fermera boutique, baissera une dernière fois ses rideaux métalliques, comme cela fera chic et bon genre. Ils franchirent une frontière qui n'existe plus. Dès lors, terminés beaux uniformes de douane rimbaldienne. Attention, soldats, ne pas quitter le chemin tracé autrefois, respecter l'organisation des tourbes. Ne pas s'aventurer dans cette eau d'où se dégage cette étrange odeur. Ce sont des milliers de pièges qui attendent celui qui s'écartera. Le sol est devenu d'un jaune étrange sur les bas marais, les landes tourbeuses. Notre ennemi le plus ancien, la brume. Mais comme l'on voit mal dans sa propre pensée, comme on la lit mal. J'étais vertueux. J'habitais un palais donnant sur un canal, et chacun, dès le matin, commençait à se faire la voix sous le plafond de la salle du chapitre. Je l'avoue, Les tourbières me hantent. J'y ai combattu autrefois, protégé par les troncs, les branchages des bouleaux. Parfois, je pose ma tête sur le sol, ferme les yeux, et c'est alors que reviennent jusqu'à moi des « souviens-toi ». Elle n'aimait pas. Si, à moins que. Jeune fille, 1968. Livre à la main, près d'un distributeur. D'eau, de café, déjà. Toutes les vitres brisées. Cabine de pilotage en cendres. Je ne peux pas vivre sans mes livres de philosophie. Dira-t-elle, lui disait-elle, dit-elle. Sous un ciel, métamorphosé en linceul. Les loups rôdent autour de la maison. Veillez sur vous, sur nous, surtout prenez soin de vous. C'est ce que ma fourche sur l'épaule, j'entends. Je sais qu'il est trop tard, qu'il fallait y songer plus tôt. Mais alors, cela eût ressemblé à un combat de coq.
De t'entendre lire des auteurs et dire une poésie qui t'est chère. Maintenant, si tu devais t'exprimer au travers de l'écrit, quel ton choisirais-tu ?
Oui, en fait, le ton, est-ce qu'on le choisit ? Moi, je pense, j'aime bien aussi les ruptures de ton. C'est vrai que j'étais à un moment donné une grande lectrice d'Apollinaire et que les poèmes cubistes qui se trouvent dans Alcool me plaisaient beaucoup et j'aimais beaucoup justement passer d'une... la façon dont Apollinaire, en grand moderniste, passe d'un ton qui peut être lyrique et même élégiaque à un ton extrêmement léger et insolent. J'aime beaucoup. Voilà, alors, je ne sais pas si on choisit un ton, mais on choisit, je pense, un état dans lequel, tout à coup, on a envie d'écrire, voilà.
Et puis, s'exprimer.
De s'exprimer, voilà. Voilà.
Alors je crois que tu nous fais cadeau de quelques lectures de poèmes que tu as écrits. Tu dis des œuvres de jeunesse.
Oui, voilà. À l'époque où, comme tous les jeunes gens et les jeunes filles, je m'amusais, disons, à écrire. Et donc, une sorte de jeu pour moi à l'époque. Et cet ensemble de textes que j'ai retrouvé grâce à toi, Marie-Agnès, parce qu'il était bien caché. Je l'avais appelé Difficile Printemps, point d'exclamation, un hommage à René Char, avec qui j'avais une petite relation épistolaire à l'époque, puisque je travaillais sur son œuvre. Et donc, il m'avait envoyé une carte postale qui commençait par cette expression Difficile Printemps, point d'exclamation. Je dis, mais alors, ça, c'est exactement le titre qu'il me faut pour les textes que j'ai écrits, qui était un petit voyage impressionniste, là, dans une certaine atmosphère d'années de jeunesse. Voilà, donc je vais lire les textes qui...
Oui, nous allons voyager dans cet univers impressionniste avec grand plaisir.
Les trois premiers textes. La débutante. J'ai 15 ans, a dit Jeanne à l'homme qui la regardait dans le miroir. Et sur sa peau a brillé un peu de la pâleur de son enfance saccagée. Les mots terribles sont maintenant de son âge. Il lui à présent un peu de terreur gourmande dans les yeux de Jeanne. Rien n'interdit plus sa cruauté confuse. Son amour ignorant n'a pas cherché longtemps dans son égarement avide. Ses mains ingénieuses cèdent des trouvailles de sa gaieté. Tumultueuse et impavide, elle découvre son amoureuse curiosité. Le vertige qu'elle aime à présent pour longtemps est facile. Il ne comprend pas très bien sa joie sauvage, l'étranger à son caprice, à son innocence ébrouée. La fille en partage. C'est la fille en partage qui se donne comme un ordre à ce qu'elle a regardé. Des mains différentes sont accrochées à son corps. Elle rit et croise ses doigts au-dessus de sa tête. Dans la campagne moite, au matin, elle rejoint en courant ses refuges. Les étoffes sont toutes déchirées. Les étoffes sur elle sont des guenilles. Et tous les regards rencontrés sont surpris. L'air tient froid à ses jambes et à ses bras découverts. Elle le capture avec ses petites mains glissées sur tous les corps. Partout, ceux qu'elle regarde sont en prison. Elle s'étend chaque fois à côté des feuilles, à côté des cailloux, à côté des mousses. Au-dessus d'elle, le ciel, pour ses yeux fermés rarement. La fille se partage et se rompt et s'arrache comme une mi-tendre. Mendiante crédule. Devinez à quoi de passé s'adressera la mendiante crédule. Non plus aux marches de l'escalier écroulé, au silence de matin où tout le monde continue de dormir, aux voix d'enfants que l'on fait taire. Non plus aux couleurs du jardin, au marbre neuf des rampes, à la jeunesse si loin de sa fin, à ses cris, à ses bruits, à ce que l'on dessine sur la table, à la voix reconnue, le cœur bourdonnant, à ce qui, aperçu de loin, donne la fièvre. Jorab, le vieux jardin, que tout le monde y soit pour une fête. Le triomphe si difficile et si cher. Les fenêtres sont étroites, les portes lourdes se referment. Jorab, le vieux jardin, il y fait gris, il brune. Petit vent, petit matin, petite main, puis pour les enfants, gouttelettes. Devinez à quoi de passé s'adressera la mendiante crédule. Ce qu'exigera sa prière? Non plus les marches, les mains tenues oubliées, la jeunesse toute neuve, mais le moment du départ impossible qu'elle aurait dû tenter, séparée des autres en courant très vite.
Estève, aujourd'hui dans Jardin d'Isis, tu nous as lu quelques-uns de tes textes de jeunesse et également des auteurs. Maintenant, tu as eu envie de lire un petit peu de Guillaume Apollinaire que tu citais tout à l'heure, quelques-uns de ses textes.
Oui, parce que je me suis rendu compte effectivement que c'était un des poètes dont j'appréciais particulièrement le ton, comme je disais tout à l'heure. Alors, on peut lire le début de Zone, qui est justement un texte moderniste À la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port aviation. Seule en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes, pleines d'aventures policières. Portraits des grands hommes et mille titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre, du soleil elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour y passent. Le matin, par trois fois, la sirène y gémit. Une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes.
Encore quelques vers d'Apollinaire avec la voix d'Annie Estève.
Le voyageur. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. La vie est variable, aussi bien que le rip. Tu regardais un banc de nuages descendre avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures. Et de tous ces regrets, de tous ces repentirs, te souviens-tu? Vagues, poissons arqués, fleurs surmarines. Une nuit, c'était la mer, et les fleuves s'y répandaient. Je m'en souviens encore. Un soir, je descendis dans une auberge triste, auprès de Luxembourg. Dans le fond de la salle, il s'envolait un Christ. Quelqu'un avait un furet, un autre, un hérisson, l'on jouait aux cartes. Et toi, tu m'avais oublié. Te souviens-tu du long orphelinat des gares? Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient et vomissaient la nuit le soleil des journées. Ô matelots, ô femmes sombres, et vous mes compagnons, souvenez-vous-en. Deux matelots qui ne s'étaient jamais quittés, deux matelots qui ne s'étaient jamais parlé, le plus jeune, en mourant, tomba sur le côté.
Je remercie mon invité Annie Estève qui nous a présenté sa passion avec enthousiasme et a accepté de partager quelques-uns de ses textes préférés et des créations personnelles de jeunesse avec nous. On peut la rencontrer sur place à la Maison de la Poésie, rue Moulin de l'Évêque, lors des soirées organisées par la Maison de la Poésie Montpellier-Languedoc. Vous pourrez retrouver Jardin d'Isis et son hommage aux poètes vivants dans notre région et ailleurs, chaque deuxième et troisième jeudi du mois, de 12h15 à 12h45, sur Radio FM Plus 91 à Montpellier et sur Alliance Plus, fréquence 103.1 à Nîmes. L'émission qui a été diffusée aujourd'hui sera archivée sur le site www.poésiejardindisis.fr, également sur le forum Georges Brassens rubrique Jardin d'Isis. Et elle est, on peut retrouver également des poésies dites par Annie sur le forum Georges Brassens Traces de Lumière, lorsqu'elle a été invitée par Christian Malaplate. Vous pouvez nous contacter en téléphonant au 04 67 63 11 22.